Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 11 avril 2019. Nathalie Barge et Abdourahmane Dia à la présentation. Voici les titres.
Au Soudan, l'armée impose un couvre-feu quelques heures après avoir destitué le président Omar el-Béchir. La rue doute des intentions de l'armée.
C'est le pilier de sécurité et de défense qui vient au secours de Béchir en prenant le pouvoir, en prétendant qu'il y a un changement.
L'ONU réclame un cessez-le-feu en Libye où les combats ont fait 56 morts en une semaine.
Arrestation du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, à l'ambassade d'Équateur à Londres.
L'Inde, démocratie la plus peuplée du monde, se rend aux urnes pour choisir son prochain gouvernement.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports.
Le président Omar el-Béchir est tombé au pouvoir depuis 30 ans. Il a été renversé ce jeudi par un coup d'État de l'armée après un soulèvement populaire. Un conseil militaire de transition a été installé pour diriger le pays pour 2 ans. Des précisions avec Irénée Herman-Ongbo.
Alors que des scènes de liesse avaient précédé l'annonce du départ de Omar el-Béchir, les meneurs du mouvement de contestation ont rejeté la mise en place d'instances militaires de transition et appelé à la poursuite des manifestations. Mais après l'annonce, la joie est finalement retombée. Les manifestants disent ne pas vouloir d'un conseil militaire de transition et promettent de poursuivre leur sitting devant le quartier général de l'armée et à travers le pays. De telles protestations qui ont désormais lieu de jour comme de nuit font peser le risque de violence puisque les nouvelles autorités militaires ont aussi annoncé jeudi un couvre-feu nocturne. Dans ce branle-bas, l'Égypte a exprimé sa confiance dans la capacité du peuple et de l'armée au Soudan à gérer l'après Omar el-Béchir, renversé par l'armée après une contestation populaire inédite.
Et au chapitre des réactions, l'Union africaine a déclaré qu'un coup d'État n'est pas une réponse appropriée aux défis du Soudan. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui réclamé que la transition respecte le désir de démocratie des Soudanais. Les États-Unis et 5 pays européens ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Soudan. Elle devrait se tenir demain. Enfin, l'acteur américain George Clooney, qui milite activement contre les crimes de guerre au Darfour, a salué la chute du président soudanais Omar el-Béchir comme un premier pas timide vers un vrai changement. Mais il a appelé à démanteler l'ensemble du système.
En RDC, 36 rebelles burundais et 3 militaires congolais ont été tués en 3 jours lors d'une opération militaire dans la province du sud de Kivu, frontalière avec le Burundi. Selon le capitaine Dieudonné Kazereka de l'armée congolaise, un porte-parole dans la province du sud Kivu, le chef des FNL a été grièvement blessé, soulignant que des armes, des munitions et beaucoup de matériel de communication ont été récupérés.
Le gouvernement gabonais annonce la suspension des cours dans tout le pays en réponse aux manifestations de lycéens depuis lundi contre un changement des règles d'attribution des bourses. Le ministre de l'Éducation nationale, Michel Menga Emesone, déclare aussi que le gouvernement est très attentif à l'évolution du climat social et préoccupé par cette vague de mécontentement. Le gouvernement fixe désormais à 19 ans l'âge maximum pour avoir droit à la bourse et exige au moins 12 de moyenne au bac. Nous y reviendrons en partie magazine.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé un cessez-le-feu en Libye où les combats s'intensifient près de la capitale Tripoli. Selon l'OMS, 56 personnes sont mortes. Des précisions avec Morgane Guériec.
Il est encore temps d'arrêter les affrontements, encore temps d'avoir un cessez-le-feu, d'éviter le pire.
Des combats font toujours rage au sud de Tripoli, cible depuis le 4 avril d'une offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui veut s'emparer de la capitale, siège du gouvernement d'Union nationale, dirigé par Fayez al-Sarraj et reconnu par la communauté internationale. Soutenu par une autorité basée dans l'Est du pays, mais non reconnue internationalement, le maréchal Haftar espère que son armée nationale libyenne va y tendre son emprise sur l'ouest de ce pays pétrolier, alors qu'il contrôle déjà l'Est et plus récemment le Sud. En face, les forces pro-gouvernementales d'Union nationale affirment être déterminées à mener une contre-offensive généralisée. Pendant ce temps, des milliers de personnes sont forcées de fuir. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, au moins 4500 personnes ont été déplacées depuis le début des affrontements.
Toujours concernant la crise libyenne, l'Union européenne a fait évacuer de Tripoli les membres de la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye en raison des combats. De son côté, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a exprimé ce jeudi sa préoccupation face au risque d'une crise humanitaire en Libye et de ses conséquences sur les mouvements migratoires, notamment vers l'Italie, à cause donc de la poursuite des combats.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a été arrêté à l'ambassade équatorienne à Londres où il était réfugié depuis 2012. Une arrestation qui fait suite à une demande d'extradition des États-Unis. Il a été reconnu coupable ce jeudi par la justice britannique d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus.
L'information a été révélée par le ministère américain de la Justice qui parle d'inculpation de Julian Assange pour association de malfaiteurs en vue de commettre un piratage informatique. L'Australien a été arrêté à l'ambassade équatorienne au Royaume-Uni après que l'Équateur ait mis fin à son statut de réfugié et invité la police britannique dans son enceinte.
International sollicité. À Grande-Bretagne,
son avocat a dénoncé la volonté américaine d'extrader, je cite, un journaliste étranger qui est poursuivi selon lui pour avoir publié des informations véridiques. Le président équatorien Lénine Moreno dit avoir demandé à Londres la garantie que Julian Assange ne serait pas extradé vers un pays où il risque la peine de mort, ce que le gouvernement britannique lui a confirmé par écrit. Selon l'acte d'inculpation, Julian Assange est accusé d'avoir accepté d'aider l'ex-analyste du renseignement américain Chelsea Manning à obtenir un mot de passe pour accéder à des milliers de documents classés secret défense. D'après la justice américaine, Manning avait déjà fourni à Wikileaks des centaines de milliers de documents confidentiels relatifs aux actions de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Chelsea Manning, qui était le soldat Bradley Manning lors de cette fuite en 2010 et 2011, a été placée en détention il y a plus d'un mois parce qu'elle refusait de répondre aux questions du grand jury chargé de superviser l'enquête sur Wikileaks.
Par ailleurs, le président bolivien Evo Morales a condamné énergiquement l'arrestation de Julian Assange, estimant qu'il s'agit d'une violation de la liberté d'expression.
Des dizaines de millions d'Indiens ont commencé à se rendre dans les bureaux de vote pour le coup d'envoi des plus grandes élections de l'histoire du pays. Le scrutin, qui se déroule sur 6 semaines, déterminera l'avenir de la démocratie la plus peuplée du monde. Nani Talani.
900 millions d'Indiens majeurs sont appelés jusqu'au 19 mai à choisir le prochain gouvernement de cette nation de 1,3 milliard d'habitants. À cause de l'immensité du pays, le deuxième le plus peuplé au monde après la Chine, ces législatives sont découpées en 7 phases. Différentes régions votent à tour de rôle et le comptage des voix sera effectué le 23 mai. Milon Vaishnav est expert au Carnegie Endowment for International Peace à Washington.
C'est littéralement le plus grand exercice démocratique jamais entrepris dans l'histoire du monde.
Au total, 1 million de bureaux de vote seront nécessaires pour élire 543 députés de la Lok Sabha, chambre basse du Parlement. Aujourd'hui, 91 circonscriptions du nord, nord-est et sud-est de l'Inde, représentant plus de 142 millions d'électeurs, ont inauguré ce bal démocratique. Le premier ministre sortant, Narendra Modi, a appelé sur Twitter ses concitoyens à sortir voter en nombre record. Son adversaire, Rahul Gandhi, président du Congrès, a, lui, mis en garde contre une reconduction au pouvoir des nationalistes hindous.
La première ministre britannique Theresa May a exhorté les députés à favoriser un consensus pour permettre au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne avant les élections européennes de fin mai. Les dirigeants européens se sont mis d'accord la nuit dernière à Bruxelles sur un nouveau report du Brexit fixé au 31 octobre, près de 3 ans après le référendum de juin 2016. Ce délai peut être raccourci à tout moment si les députés britanniques adoptent un accord de divorce.
Le président américain Donald Trump a dit envisager d'autres discussions avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un 6 semaines après l'échec de leur deuxième sommet à Hanoï. recevant son homologue sud-coréen Moon Jae-in dans le bureau ovale, Donald Trump a souligné vouloir discuter avec ce dernier de possibles nouvelles rencontres avec l'homme fort de Pyongyang, sans toutefois donner d'indication de calendrier.
L'Irak dit avoir mené une importante opération pour déloger des djihadistes d'une région montagneuse du centre. Le pays fait toujours face à des attaques de cellules terrées dans des recoins désertiques ou accidentés comme la zone des monts Amarin au nord de Bagdad.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Morgane Guiriec.
Ivanka Trump, fille et conseillère spéciale du président américain Donald Trump, sera à Abidjan en Côte d'Ivoire le 17 avril à l'occasion du premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs, WEFI, en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce que rapporte l'agence Ecofin. Organisée par WEFI, en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, ce sommet vise principalement à permettre aux femmes entrepreneurs des pays en développement d'accéder aux capitaux, aux réseaux et aux mentors nécessaires pour créer et développer leurs entreprises. Après la Côte d'Ivoire, Ivanka Trump se rendra en Éthiopie. Les nations africaines pourraient perdre 420 millions de dollars si le Royaume-Uni ne parvient pas à un accord sur le Brexit. Le Maroc, le Ghana et la Tunisie font partie des pays africains qui perdraient le plus selon une étude réalisée par l'ONU. L'intention du Royaume-Uni de réduire les droits de douane pourrait accroître la compétitivité de certains de ses partenaires commerciaux, explique la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les exportations de nombreux pays en développement bénéficient d'un accès favorable au marché britannique grâce aux accords commerciaux bilatéraux et aux régimes préférentiels unilatéraux de l'Union européenne. L'étude montre aussi que 11 pays du continent augmenteraient leurs exportations de 3,66 milliards de dollars, l'Afrique du Sud, Maurice et le Botswana en tête.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On commence avec les chapeaux pour le tirage au sort de la CAN 2019.
Oui, la CAF a officialisé la répartition des 24 équipes qualifiées sur la base du dernier classement mondial FIFA. 6 groupes de 4 équipes chacune seront formés. Ainsi, on retrouve l'Égypte, pays hôte, le Cameroun tenant du titre, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria et le Maroc dans le pot 1. Le chapeau de renferme, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée et l'Algérie. Pour leur première participation à une phase finale de CAN, la Mauritanie et Madagascar se retrouvent dans le pot 3 en compagnie de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, du Bénin et du Kenya. L'autre novice de la compétition, le Burundi, partage le pot 4 avec le Zimbabwe, la Namibie, la Guinée-Bissau, l'Angola et la Tanzanie. Le tirage au sort aura lieu demain à partir de 18h temps universel au pied des pyramides du Sphinx en Égypte. Pour l'occasion, la CAF a invité 4 légendes qui serviront de témoins. Il s'agit du Nigérian Emmanuel Amunike, le Marocain Mustapha Hadji, l'Ivoirien Yaya Touré et le Sénégalais Eladj Diouf.
En Europe, fin de saison pour Diego Costa en Espagne.
Oui, l'attaquant de l'Atlético Madrid a été suspendu pour 8 rencontres de Liga pour avoir insulté et agrippé l'arbitre lors de la défaite contre le FC Barcelone samedi dernier 2-0. Le comité de compétition, l'organe disciplinaire de la Fédération espagnole de football, a sanctionné l'Hispano-Brésilien de 4 matchs pour insultes proférées par le joueur à l'arbitre et 4 autres pour l'avoir agrippé. Il écope aussi d'une amende de 6 000 € et 2 800 € pour le club. Diego Costa ne jouera plus cette saison parce qu'il ne reste à l'Atlético que des matchs de Liga à jouer après les éliminations en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Les Colchoneros ont fait appel de cette décision.
Du basket pour finir, Détroit décroche le dernier billet pour les playoffs.
Oui, Détroit a décroché le dernier billet pour les playoffs NBA après la démonstration d'André Drummond face aux New York Knicks, humilié 105 à 89 à domicile. L'issue de la rencontre était déjà scellée après le premier carton conclu sur le score de 36 à 22. Détroit retrouve la phase finale du championnat NBA pour la première fois depuis 2016. Pour leur retour en playoff, eh bien, les Pistons vont défier la meilleure équipe du championnat 2018-2019, Milwaukee, et son prodige grec d'origine nigériane, Gianni Antetokounmpo. Ils ont terminé à la 8e place de la conférence Est avec 2 victoires de plus que Charlotte.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge et Abdourahmane Dia en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Le président Omar el-Béchir, qui dirigeait le Soudan depuis 30 ans, a été renversé ce jeudi par l'armée après un soulèvement populaire et remplacé par un conseil militaire de transition pour 2 ans. Le ministre de la Défense a annoncé la chute du régime et le placement en détention d'Omar el-Béchir dans un lieu sûr. Pour une analyse, Morgane Guerrier, qui a joint Souleymane Baldo, il est spécialiste du Soudan et conseiller à Enough Project.
Ça ne me surprend pas, mais ça me déçoit beaucoup.
Pourquoi ?
Parce que ça me semble être un coup d'état de palais. Ce qu'on voit maintenant, c'est le pilier de sécurité et de défense qui vient au secours de Béchir en prenant le pouvoir, en prétendant qu'il y a un changement. Or, ce n'est pas aux architectes de 30 ans de répression, de guerre civile et de corruption massive en qui on peut donner une confiance qu'ils peuvent changer quoi que ce soit de leur propre conduite. On s'attendait à une prise de pouvoir par l'armée. C'est une coalition des organes de sécurité, de défense et de police qui, ensemble, au nom du comité supérieur de sécurité, qui prennent le pouvoir. Pour moi, ça a l'apparence d'un coup d'État orangé de palais.
Omar el-Béchir est remplacé par un conseil militaire de transition pour 2 ans. Vous désapprouvez cette mesure ?
Je désapprouve dans la mesure où le peuple soudanais, toute la société et sa composante entière ont été dans la rue pendant 4 mois demandant le départ de Béchir. Ils ont assiégé le quartier général de l'armée de Soudan et ils ont continué à avoir le pouvoir. L'armée, en tant qu'institution qui restait neutre dans la répression, prend le pouvoir pour changer le régime, pas pour le préserver. C'est un nouveau page de la crise au Soudan qui s'ouvre. Ce n'est pas une solution ou bien sortie de crise qui vient d'arriver avec cette prise de pouvoir par le général Dibnov.
Vous vous dites déçu par ce coup d'État. Y a-t-il un scénario qui vous aurait semblé plus acceptable ?
Je crois que c'était le devoir et la responsabilité de ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Je le répète encore, ce n'est pas l'armée, c'est le comité de sécurité qui regroupe tous les organes de sécurité et de défense, y compris l'armée, la police, le service de sécurité et d'intelligence et la malice d'intervention rapide de Hemeti de mauvaise réputation. Ensemble, ils ont pris le pouvoir. Disons, au lieu de déclarer un coup d'État militaire unilatéralement, ils avaient la responsabilité et le devoir de consulter avec le leadership de des protestations civiles, c'est-à-dire la coalition des forces pour la liberté et le changement. Alors, ces forces-là n'ont pas été consultées. Ils ont appelé la population donc à continuer les protestations civiles pour qu'il y ait un changement réel dans le pays et n'est pas un changement, d'apparence.
C'était Souleymane Baldo, spécialiste du Soudan, également conseiller à Enough Project.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement gabonais a décidé hier soir de suspendre les cours sur l'ensemble du territoire dans les lycées et collèges jusqu'à nouvel ordre suite aux manifestations des élèves qui protestent contre le durcissement des conditions d'attribution des bourses d'études. La réforme prévoit que seuls les élèves ayant 12 de moyenne annuelle et âgés de 19 ans pourront bénéficier de l'allocation d'études. Les étudiants dénoncent une décision jugée discriminatoire. Les détails avec notre correspondant Ismaël Obiang Nze.
Le gouvernement gabonais ne recule pas en réponse à des manifestations d'élèves contre les nouvelles attributions de bourses. Le ministère de l'Éducation nationale a fermé les lycées et collèges publics du pays jusqu'à nouvel ordre. Ronnie Star Eyon, journaliste, condamne cette décision.
Il fonctionne dans le flou. Les décisions sont prises dans le flou. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on espère que quelque chose de très fort va se passer en faveur des élèves parce que là, ils sont dans la panique. Et c'est ce qui se dégage, tout simplement.
Pour Janvier Mbina, parent d'élève, le gouvernement veut maintenir l'ordre public très menacé ces derniers jours par les appels à mobilisation des manifestants.
Aujourd'hui, si je suspends, c'est pour éviter justement les cas d'accident qu'on voit par-ci par-là. Parce que on disait que hier, il y a un élève qui est décédé. Donc, pour ne plus qu'il y a d'autres élèves, on est obligé de suspendre les accidents.
Ceci est bien compris par Yves Evouna, étudiant, mais selon lui, le gouvernement doit tirer les conséquences de la contestation des élèves.
Je la trouve nécessaire. Nécessaire en ce sens que les élèves ont manifesté. On a vu que les regroupements de ces 10 élèves s'effectuaient justement dans les enceintes des établissements et ils se reportaient dans les rues. Les revendications des élèves sont légitimes. La bourse d'abord au Gabon, pour nous c'est un héritage qui a été laissé par le feu président El Adjoma Bongo Ndimba. La deuxième des raisons, c'est une sorte d'inégalité de dire aujourd'hui qu'il faut avoir 19 ans et 12 au baccalauréat pour avoir l'obtention de la bourse. Quand bien même on connaît les conditions dans lesquelles apprennent les petits Gabonais, c'est pour moi une mesure qui vient ici comme pour mettre fin en fait à l'attribution des bourses aux élèves. En fait.
Les transports publics sont impactés par cette crise de l'éducation à Libreville, comme le déplore Mohamed Yaya, taximan.
Nous, des petits taximans, sérieusement, pour remettre l'argent aux propriétaires, on ne s'en sort pas. Parce que nous-mêmes, on économise par rapport aux élèves. Mais si les élèves ne partent pas à l'école, vous voyez, c'est aussi une perte pour nous. Donc, sérieusement, on espère que le gouvernement va faire quelque chose. Mais on a confiance.
Selon quelques indiscrétions, le gouvernement serait face à deux options pour apaiser la tension des élèves. Soit la réforme des nouvelles conditions d'attribution des bourses est maintenue avec des réajustements, soit elle est abandonnée car impopulaire. Ismaël Obianzi, Libreville, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, Washington Forum braque les projecteurs sur la révolution numérique en Afrique. Avec la forte progression de la téléphonie mobile, le déploiement du haut débit et l'émergence de start-up, le continent innove à grande vitesse malgré de nombreux obstacles. Quelle est la place de l'Afrique dans le monde de la nouvelle technologie? Quels sont les enjeux? Le digital peut-il vraiment apporter des solutions concrètes au quotidien? L'Afrique pourrait-elle servir de modèle au reste du monde? Quelles sont les limites à ce miracle numérique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Le lac Kivu est l'un des plus grands d'Afrique. Il se situe à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Alors qu'il est reconnu au plan mondial comme source de méthane et attraction touristique, l'un de ses aspects les moins connus est sa population, en particulier les pêcheurs. Nous les avons rencontrés à Rubavu, ville frontalière du Rwanda, près de Goma. Un reportage de Nicolas Akoukouzé, le récit est de Clermont Injibourg.
Alors que le soleil se couche sur la ville lacustre de Rubavu, à l'ouest du Rwanda, l'atmosphère est animée par des chants et des sifflets des pêcheurs. Ils chantent pour le courage et le moral, ils chantent pour garder le rythme, les uns avec les autres. Les chants créent un sentiment d'espoir et d'optimisme alors qu'ils partent passer la nuit loin de leur famille. Ils espèrent que ce soir, ils pourront capturer une grande quantité de poissons. Vincent est l'un de ces pêcheurs.
Si c'est un bon jour, on peut attraper entre 25 et 35 kilos. Et pour un bon prix, comme par exemple 1500, ça rapporte à peu près 40 000. Et après avoir déduit les dépenses, on épargne 20 000.
Partagé par le Rwanda et la République démocratique du Congo, le lac Kivu s'étend sur 89 km de long, 48 km de large et 240 mètres de profondeur. C'est le 8e plus grand lac d'Afrique et le 9e plus profond du monde. En 1959, Alphonse Collard, un ingénieur agronome belge, a introduit des sardines dans le lac Kivu en provenance du lac voisin, le Tanganyika. C'est ce poisson qui est devenu une source de revenus pour tous les pêcheurs, dont Vincent fait partie.
Notre métier est important car grâce à la pêche, nous sommes en mesure d'éviter la malnutrition dans nos familles et dans cette province. Grâce au lac Kivu, il est même possible d'éviter la malnutrition dans tout le pays si la production est assez bonne.
Mais rien n'est garanti alors qu'ils naviguent dans la nuit. Le lendemain matin, ils reviennent sur la côte avec les fruits de leur labeur. Leurs femmes et leurs enfants attendent également sur les rives où ils leur préparent le petit déjeuner. Bikirimana Sebakunzi vient de rentrer de sa nuit de labeur.
Cette profession est importante pour nous car elle m'a permis d'éviter de me retrouver dans la rue, de voler ou d'avoir d'autres mauvais comportements. Maintenant que j'ai fini de travailler, je peux me mettre sur mon 31 et aller me promener car j'ai pu gagner de l'argent.
Même si la nuit n'a pas apporté une grande quantité de poissons, les pêcheurs restent reconnaissants et optimistes. Après tout, la pêche a fait beaucoup pour eux au fil des années.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Vainqueur aux élections législatives israéliennes, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se démène déjà pour former le prochain gouvernement qui verra le jour sous la menace de son inculpation pour corruption. Sa victoire était-elle prévisible? Qu'en est-il de l'espoir de paix avec les Palestiniens? Eki Abadou a posé ses questions à l'analyste politique israélien Noam Bar Shalom, joint Tel Aviv, et à Mustapha Tossa, journaliste marocain basé à Paris.
Cela ne me surprend pas parce que c'est exactement ce que les sondages ont dit. Malheureusement, l'agenda public n'est pas entré dans les questions d'économie, des sociétés ou même des processus de paix. Mais seulement de savoir qui est fiable, qui a de l'expérience, qui est plus national, qui est plus fort. Et le mot « gauche » a été utilisé comme terme péjoratif. Et tout ça a joué pour Netanyahou et c'est pour ça que je ne suis pas étonné, pas du tout. Mais il y avait des grandes différences entre des villes comme Tel Aviv, toutes les régions du centre d'Israël, toutes les régions de Tel Aviv, que les gens soutenus à Benny Gantz et Kahol Lavan, le blanc, et la périphérie, ça veut dire le sud, ça veut dire Jérusalem, qui est plus religieux, et les settlements, ça veut dire les juifs qui habitent dans le territoire. Et bon, vraiment, ils sont, c'est naturel, ils sont d'extrême droite ou de droite. Et pour ça, il y a des gens qui sont vraiment déçus ici à Tel Aviv, mais il y a beaucoup de gens qui pensent, voilà, ça reflète notre vouloir que Netanyahou reste le Premier ministre. Alors, c'est mix. La réponse, c'est que c'est mix.
On croyait qu'un vent de dégagisme avait soufflé aussi sur les Israéliens et qu'à cause des multiples affaires de corruption qui poursuivaient et qui menaçaient le Premier ministre Benjamin Netanyahou, il ne pourrait pas avoir autant de voix qui lui permettraient d'avoir un cinquième mandat. L'aide internationale dont il a bénéficié, le type de cadeau offert par l'administration Trump, les postures et les photos politiques qu'il a enregistrées avec Vladimir Poutine, on a l'impression que les grandes puissances de ce monde ont décidé d'aider politiquement, électoralement Benjamin Netanyahou, ce qui a un peu lustré son image auprès de son électorat et donné l'impression que lors de la situation qui est capable d'apporter et la sécurité et la normalisation avec les pays arabes et les pays musulmans et les performances diplomatiques sur un certain nombre de terrains africains, européens et américains était l'œuvre d'un seul homme qui est Benjamin Netanyahou.
C'était l'analyste politique israélien Noam Bar Shalom, joint à Tel Aviv, et Mustapha Tossa, journaliste marocain basé à Paris.
Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Starling, présentation Nathalie Barge et Abdoulrahman Diab.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous.
VOA Afrique.